Notre bleuet préféré, Mario Tremblay, sera là tout à l'heure. C'est avec lui qu'on va amorcer la prochaine heure. Pas celle qu'on amorce à l'instant même, là, mais 20h, Mario sera là. Martin McGuire, de retour de Vegas avec Danny Dubé également, nous feront part de ce qu'ils ont ressenti et surtout de ce qu'ils ont vu et recueilli comme commentaire dans le cas de Martin. Et d'entrée de jeu, à ce moment-ci de l'émission, 19h, bientôt une, on va retrouver notre ami Martin Viron, cet ancien gardien de la Ligue nationale, analyste pour les Sabres de Buffalo. Bonsoir, Martin.
Bonsoir. Quand tu vas voir Martin McGuire, là, il m'a dit si c'est plate d'être à Vegas puis d'être resté dans sa chambre d'hôtel. Parce que je pense qu'il n'avait pas le droit de sortir.
Ils n'ont pas le droit de sortir.
Ils n'ont pas le droit de sortir. Hey, imagine être à Vegas puis regarder la piscine dehors, là, puis le monde dans la rue, puis pas être capable de sortir. Ça me rendrait fou.
C'est-tu quoi? Ça aurait fait bien plaisir à Jean Perron, parce que dans le temps qu'il coachait dans la Ligue internationale, ce qui le rendait fou, lui, c'est que les gars pouvaient sortir.
Je veux dire, il y a certains entraîneurs, là, comme nous autres à Buffalo, dans le temps Lindy Ruff, là, si on allait là, à Detroit, où il y a des casinos, ou même on allait à Ottawa, écoute, les gars, on prenait le taxi, on s'en allait au casino de Hull, ben là, casino Lac-Lemé. Puis Lindy Ruff, il était là avant nous autres. Écoute, lui, il aimait ça au casino, fait qu'il nous battait aux tables de blackjack.
T'es sérieux, toi?
Je te dis, puis là, on arrivait, puis on disait, bon, on peut pas aller jouer, le coach est là. Fait qu'on attendait, on attendait, on essayait d'aller trouver une autre place. Là, une fois qu'il partait, ben là, on était là pour le reste de la soirée.
C'est bon, ça. Je te dis que... Hey, tu vas t'écrire un livre un jour, Martin, sur toutes les anecdotes que tu as vécues dans ta carrière?
Sérieux, là, j'avais un fichier sur mon ordinateur il y a plusieurs années avec tellement d'histoires. Puis, il faudrait que j'aille voir si c'est encore là, là, parce que j'ai changé d'ordinateur 2-3 fois, puis tu sais pas si tous les fichiers suivent, là, mais à tous les semaines, là, je me fais poser des questions, puis il y a une histoire qui sort, puis une histoire qui sort, puis le monde dit, ben, c'est pas vrai, ça, tu fais des
t'inventes ça.
Des histoires pour le fun, t'inventes ça. Je dis, non, je te dis, appelle les gars, ils vont te le dire, là. J'ai tellement de fun, mais ces histoires-là, tu sais, sont fun à raconter dans un livre, c'est pas pareil. J'aime ça les raconter, là, juste en jasant avec du monde, là,
c'est sûr.
Autour de au bar avec une coupe de bière, là, c'est le fun des partisans et tout ça. Dans un livre, les émotions de l'histoire, c'est pas les mêmes.
T'as raison. Fait que c'est l'idée, c'est de se ramasser avec une petite gang de chums le plus longtemps possible. Bon, c'est une bonne recette pour veiller tard dans la vie, ça. Je parle pas juste de passer minuit, je parle de vieillir en toute sérénité.
Absolument.
Pis d'avoir du plaisir. Martin, il y a quelques sujets dont je veux te parler. Je vais garder Jack Eichel pour le dessert, puisque je vais avoir recours à ton expertise sur ce qu'on voit de Carey Price et Marc-André Fleury, deux gardiens dans la mi-trentaine au sommet de leur art. Mais d'abord, comme observateur, toi, t'aimes ça, qui défend bien devant un gardien de but. Ah. As-tu une idée de quelle sera la valeur de Philippe Dano sur le marché s'il teste l'autonomie?
Écoute, Philippe Dano, je pense que l'année passée, il y a 2 ans, lui-même, là, sans l'avoir dit, là, je pense qu'il croyait que sa valeur était vraiment peut-être plus haute que le reste de la Ligue et que le monde
pensait
avec Philippe Dano. Et cette année, je pense qu'on se rend compte que oui, sa valeur est... Et comme il croyait en lui. Tu sais, c'est ça, là, la meilleure confiance d'un joueur, c'est de croire en toi-même et de savoir que ta valeur est ce que tu crois vraiment. Et il l'a démontré. Il l'a démontré toute l'année, puis il l'a démontré depuis le début des séries éliminatoires. Écoute, contre Matthews Marner, contre Wheeler Connors, Ehlers, peu importe. Tu sais, c'est sûr, Scheifele n'était pas là, mais quand même. Et là, il fait une job incroyable. Écoute, hier, là, j'ai trouvé que la paire de défense de Weber et Ben Sherratt ont vraiment été excellents. C'est sûr que Petrie y aide beaucoup. Puis tu vois le côté offensif. Mais défensivement, là, à l'E2, ils ont eu le 3/4 des mises en échec des défenseurs, même plus. Je pense qu'à l'E2, il y avait 16 mises en échec, puis le reste des autres défenseurs n'avaient seulement qu'une. Les lancers bloqués, jouer défensivement. Il y a beaucoup de monde qui vont dire, oui, mais quand ils sont sur la glace, ils donnent beaucoup de tentatives de lancer. Oui, ils en donnent, mais est-ce que c'est des chances de marquer? Il donne pas beaucoup de chances de marquer parce qu'il protège l'enclave, il protège là, la house, là, la maison qu'on dit. Puis ils font un excellent job. Puis comme un gardien de but, ben Carey Price, il aime ça. Puis là, ben quand t'as Weber puis Sherratt sur la glace, ça va bien. Puis là, tout d'un coup, whoop, Weber, Sherratt sort de la glace, Dano embarque sur la glace. Et là, tu dis, c'est la même affaire. C'est la même clé du recet. Alors, tu peux neutraliser deux trios du côté de Vegas parce que tu peux les neutraliser avec tes défenseurs ou avec ta ligne là, défensive à l'attaque, puis Dano fait un job incroyable.
Penses-tu qu'il y a une équipe qui oserait lui donner jusqu'à 5,5-6 par année, même s'il n'a jamais compté plus que 15 buts en carrière? En fait, son sommet, c'est 13 en carrière. Est-ce que sa production offensive affecterait ça? Puis je veux revenir aux émotions, mais juste l'aspect business, parce qu'il y a plusieurs personnes qui en parlent ces temps-ci à cause de ça.
Je pense que la valeur est probablement entre 5 et 5,5. Si tu vas à plus que 5,5, 6, alors je pense que tu en demandes peut-être un peu trop. Et aussi, c'est où sa valeur à Montréal est élevée. Pourquoi? Parce que là, on voit bien que Suzuki coûte moins cher et peut jouer de bonnes minutes offensives. Kotkaniemi coûte moins cher, peut jouer de bonnes minutes offensives. Alors là, tu dis, tu as besoin d'un gars comme Dano. Et sa valeur à Montréal est à la hausse. Malgré que s'il partirait de Montréal, il s'en va, je ne sais pas, mettons, au Minnesota. Minnesota a besoin de joueurs de centre. Là, tu dis, ben là, est-ce que Philippe Dano au Minnesota a la même valeur au Wild qu'il a à Montréal? Je pense que non. Je pense que c'est pas la même chose. Alors, sa valeur, je pense, est à la hausse, puis est à la hausse avec le Canadien. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de savoir comment la négociation de contrat va se dérouler.
Vraiment. La valeur de Carey Price, ben, enfin, on pourrait dire que lui, il retrouve sa pleine valeur. Que penses-tu de ses performances depuis le début des séries, de l'attitude, de ce qu'il dégage?
Ben, écoute, j'écoutais son entrevue d'après-match hier. Calme, calme. Il disait même après la première de la 7 contre Vegas, on se sentait en contrôle. Tu sais, les choses vont bien, on joue bien, il n'y a pas de panique. Puis tu le vois qu'il est vraiment calme. Puis il est calme dans le filet, malgré qu'il joue un peu plus agressif que je l'ai vu dans les dernières années. Puis il y a trois arrêts qu'il a fait là, dans les deux premiers matchs contre Vegas. L'arrêt contre Mark Stone en 2-1 avec la mitaine. L'arrêt contre Marchessault lorsqu'il a sorti la jambière droite. Et l'arrêt contre Martinez hier. Ça, là, c'est trois arrêts qui, tu vois, là, qui est dans la tête des attaquants de Vegas. Pourquoi? Parce que un joueur qui est capable de marquer des buts, habituellement, ne voit pas de gardien de but. Lorsqu'il reçoit la rondelle, il voit la partie ouverte du filet, il voit pas le gardien de but, il tire la rondelle et dans le fond du filet. Mais quand t'as un peu, là, un point d'interrogation dans la tête et tu dis, ah, c'est Carey Price, c'est l'influence de Carey Price, alors là, les joueurs commencent à regarder Carey Price et là, quand tes yeux vont vers un objet, tes mains et ton lancer vont vers le même objet. Alors là, Mark Stone voit Carey Price qui s'en vient avec la mitaine. Probablement qu'il a regardé la mitaine et il l'a lancé directement dans la mitaine. La même affaire avec Marchessault puis Martinez hier. Alors, c'est ça l'influence Carey Price. Il joue tellement bien présentement. Ses déplacements latéraux sont incroyables, sont rapides. Mais plus que ça, il est dans la tête des attaquants de Vegas présentement. Alors, des arrêts que d'autres gardiens de but ne feraient sûrement pas. Lui est fait parce qu'il y a ce côté psychologique-là qui est de son côté.
J'aime ton analyse. C'est un point de vue de gardien de but de la Ligue nationale. Comment tu analyses le poteau de Pacioretty de la même façon?
Non, ça, c'était, il était chanceux. Il a touché du mauvais côté. Puis je pense, là, je regarde, je l'ai ralenti 4, 5, 6 fois. Je suis pas sûr si elle a touché. Je crois que c'était Petrie qui était en avant de lui. Pas sûr qu'elle a touché, peut-être changé de direction, mais tu vois Carey Price, il a comme pris là, au hasard, il a dit ben, je pense qu'il va lancer du côté du bouclier, et là, la rondelle, ça va du côté de la mitaine, et là, il y avait beaucoup plus de place du côté de la mitaine, il a frappé le poteau. C'est arrivé quelques fois dans les séries. Si tu te souviens, en première ronde, Morgan Riley a marqué un but où Carey Price était complètement du côté droit,
oui.
Et là, le côté gauche de Carey Price, il est ouvert, et tu te dis oui, des fois, il prend la chance, il dit ah, je vais anticiper le lancer et essayer là, d'avoir une chance peut-être là-dessus. Hier, il s'était fait battre contre Pacioretty, ça a frappé le poteau. Alors, si ça l'était Marc-André Fleury, on l'aurait vu là taper son poteau et flotter son poteau comme il fait tout le temps, mais Carey Price n'est pas de même, puis il continue à jouer.
C'est vrai qu'ils sont tellement différents dans leur style, dans leur attitude, dans ce qu'ils dégagent. Marc-André Fleury sur le but de Toffoli, j'entendais l'explication de Kelly Rudy, de Patrick Lalime également hier. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est pas évident de faire face à un tir raté, en quelque sorte, qui devient un but. On en a vu beaucoup dans l'histoire de la Ligue, des tirs ratés qui déjouent un gardien, n'est-ce pas, Martin?
Oui, c'est le pire. Un tir raté, c'est le pire, alors que tu t'attends à un lancer qui va être beaucoup plus rapide, une certaine location, et là, le tir est raté et tu n'as pas la chance de te rattraper et de t'ajuster. Il s'est fait battre aussi, Marc-André Fleury, contre Colorado, je crois que c'était le premier match de la série. Brandon Saad est arrivé comme en échappé, et lorsque Brandon Saad est arrivé pour lancer, il a reçu comme un petit coup de bâton qui a affecté la trajectoire du lancer et de son bâton, et là, il a battu Marc-André Fleury entre les deux jambes. C'est vraiment difficile. Un lancer raté, c'est pas une balle courbe, là, c'est un change-up, là, comme ils disent au baseball. Là. C'est tellement difficile. Puis souvent, ça te bat en dessous de la mitaine, en dessous du bras, et quelque chose comme ça. C'est sûr, c'est rare que c'est entre les deux jambes. Mais c'est la même chose. Si tu t'attends à quelque chose d'autre, et là, tu te fais prendre là, sur un changement de vitesse là, du lancer.
En tout cas, es-tu surpris? Est-ce que tu penses que le monde qui observe le cheminement du Canadien en série, la victoire d'hier amène un peu plus de respect à leur égard?
Je pense que oui. Écoute, tu sais, quand les Islanders ont battu le Lightning lors du premier match, tout le monde disait « Ah ben, c'est un match, le Lightning va revenir et va être capable d'en gagner 2-3, peut-être 4 et la série va être longue. » Mais lorsque Vegas a battu le Canadien lors du premier match, on dit « Ah ben, ça va être en 4 ou 5, hein, c'est le même que ça va marcher. » Et ça peut se finir en 4 ou 5 aussi pour Vegas. Mais je crois qu'hier, le match du Canadien, le côté dominant en première période lors du premier match et dominant en première période lors du deuxième match fait vraiment là, ouvrir les yeux là, aux amateurs de hockey qui se disent bon, ben la division Nord était faible cette année puis le Canadien était chanceux. Non, le Canadien joue un système là qui est parfait pour les séries. Ils ont les joueurs parfaits pour les séries et ça marche présentement. Dominique Ducharme, Marc Bergevin ont fait vraiment du bon travail pour préparer cette équipe-là.
Vegas a perdu les deux premiers matchs de la série contre l'Avalanche du Colorado pour ensuite en remporter 4 de façon consécutive. Donc, ils sont capables de rebondir. Est-ce que tu penses que... C'est dur de comparer le Canadien au Colorado, mais as-tu l'impression que le Canadien est un casse-tête plus difficile à résoudre pour les Knights ou ils vont revenir pour attacher vos trucs? Ils vont venir avec toute une performance dans le match demain.
Écoute, t'es en demi-finale de la Coupe Stanley, il faut t'attacher ta tuque à tous les jours. Même si c'est une pratique ou c'est une game, t'attaches ta tuque. Mais la différence entre Colorado et Montréal, c'est la défense. Écoute, on a vu, là, moi j'aime beaucoup Samuel Girard. Je trouve que c'est un défenseur là, très sous-estimé dans la Ligue nationale, je l'adore. Il y a eu de la misère contre Vegas, il y avait beaucoup de pression contre lui. Kyle McCarr n'était pas le même défenseur contre Vegas qu'il l'était en première ronde contre Saint-Louis toute la saison. Alors, je pense que c'est ça la différence. Le Canadien, à la défense, là, ça complique pas les choses. Ça joue dur, ça joue physique, ça protège le devant du filet. Weber, Sherrod, Petrie, Edmondson, c'est pas des gars là qui vont compliquer les choses. C'est pas des gars qui vont sortir là avec la rondelle puis patiner d'un bout à l'autre de la patinoire. Non, ça garde les choses simples. Alors, je pense que c'est ça là, le truc présentement. Puis ce qui donne un peu là, de misère à Vegas là, de se mettre en marche offensivement, c'est que le Canadien ne donne pas de revirement à Vegas. Il le fait vraiment travailler pour tout ce qu'ils ont à avoir sur la patinoire. Colorado, beaucoup trop de revirements. Et là, Vegas, il était comme au buffet, là, puis il faisait une grosse assiette.
Parle-moi de Jack Eichel. Les rumeurs, je veux dire, sont nombreuses. Va-t-il partir? Sera-t-il échangé? Est-ce qu'une équipe pourrait donner quand même beaucoup de choix de première ronde et même des joueurs d'importance avec un joueur qui risque d'avoir à subir une chirurgie qu'on n'a jamais vue dans le monde du hockey? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu sais sur l'avenir et le présent de Jack Eichel à Buffalo?
Ben présentement là c'est très secret. Je pense que l'équipe et le clan Eichel se parlent et négocient un peu là, quoi qui se doit arriver pour Jack Eichel. Sa période de réhabilitation est finie, le 12 semaines qu'il parlait. Alors c'est de savoir où se trouve Eichel et qu'est-ce que l'équipe va faire. Écoute, moi je suis là, je l'ai dit depuis le début, je ne crois pas que Jack Eichel va être transigé cet été. Il y a encore un an avant sa clause le non-mouvement. Et alors, je pense que peut-être durant la saison ou à la fin de la saison, l'été prochain, ça peut arriver. Mais cette année, je ne crois pas que les Sabres vont être capables de recevoir un retour assez important, surtout avec les problèmes de coûts de Jack Eichel, pour pouvoir faire la transaction. Tu ne peux pas là, faire une transaction et dire, « Bon, ben on a eu 50% ou 70% de ce qu'on voulait recevoir pour Jack Eichel. » Non, ça doit être le 100%. Tu peux pas échanger un joueur de la trempe de Jack Eichel pour 70% de retour. Ça se fait pas. Alors, c'est pour ça que je pense que les autres équipes dans la Ligue nationale vont être prudents. Écoute, on parle Anaheim. Ben, si tu parles d'Anaheim, ben, c'est Trevor Zegras ou ben, Jamie Drysdale. Puis Anaheim ne semble pas vouloir se départir de ces joueurs-là. Los Angeles, c'est Quinton Byfield. Ils ont dit non. New York, les Rangers, c'est probablement Keandre Miller et peut-être même Alexis Lafrenière. Écoute, c'est une grosse demande, là, et faut vraiment que tu sois certain du rapport de santé et de la production de Jack Eichel. Alors, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que Jack va rester à Buffalo et il va falloir qu'il se mette en marche là, pour pouvoir prouver là, sa valeur avec l'équipe ou dans le reste de la Ligue nationale.
Deux petites vites, Martin, terminant. Où vois-tu Dougie Hamilton poursuivre sa carrière?
Ben, c'est pas Caroline, ça c'est sûr. Je pense peut-être Philadelphie. Écoute, ils ont de la misère à la défensive cette année, Philadelphie. Provorov n'a pas été le joueur qu'il pensait. Gustav Bear, ça marche plus. Alors, peut-être que Philadelphie, c'est toujours une équipe là, qui aime ça, là, faire un gros splash là, dans les joueurs autonomes, dans les échanges.
Et Rob Brind'Amour confirmé qu'il reste en Caroline. On entend des bons échos. Semble-t-il que c'est plaisant de jouer pour lui? Je ne sais pas ce que tu entends à son sujet.
Écoute, il est très demandant. Là. Il en demande beaucoup de ses joueurs, comme il en demandait beaucoup de lui-même et de ses coéquipiers quand il jouait. Mais je pense que oui, je pense que conversation que j'ai eue avec certains joueurs, même là, juste aller dans un camp d'entraînement avec les Hurricanes de Caroline, il dit c'est Rod Brind'Amour, c'est un bon gars, il jase à tout le monde, il aide tout le monde, c'est un gars positif, c'est un gars intense. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment ça jouer pour Rod Brind'Amour. Moi, c'est le meilleur entraîneur cette année. Le trophée Jack Adams, je le donnerais à Rod Brind'Amour.
Qui va avoir le dernier mot? Marc-André Fleury, Carey Price, les Knights ou le Canadien, Martin Biron?
Je pense que ça va être Fleury, malgré que j'aime beaucoup de la manière dont le Canadien a joué dans les deux premiers matchs. Mais Vegas, d'après moi, va avoir un peu plus que le Canadien là, sur une série de 7.
En tout cas, Martin, je sais pas ton computer où est-ce qu'il est installé, là, mais tes données hockey sont jamais ben loin dans ton cerveau. M'a dit, ça sort à une vitesse incroyable. Bravo et merci beaucoup de nous les partager. Merci, Martin.
Ouais, je te remercie puis bonne série tout le monde.
Merci, à la prochaine. Martin Viron qui était avec nous c'est fort intéressant de lui parler. Puis dans quelques instants, Danny Dubé, Martin McGuire sera là, Mario Tremblay également. On va parler du US Open aussi, un peu de golf, de belles images depuis Torrey Pines. On vous dira qui a bien performé aujourd'hui. Bryce, il chantait « The time of my life » hier. Il chantait pas, mais il disait « J'ai le temps de ma vie. Je vis le meilleur temps de ma vie dans les performances. » On s'en va à la pause cette fois.